Le lendemain matin de notre arrivée, nous prîmes le petit déjeuner, notre dernier repas ensemble, au premier étage, dans une salle de forme pentagonale où l'on accédait par trois marches. Elle était meublée d'une table de chêne creusée d'une multitude de tunnels par les vers qui la rongeaient depuis longtemps, de trois chaises aux dossiers immenses, d'un bureau de chêne encore couvert de papier, de tapisseries, de trois tableaux de couleurs sombres et d'une pendule antique. Cette salle est située au milieu du château. Trois fenêtres en ogive donnent sur le lac par-delà un îlot où poussent quatre arbres entourés de buissons fleuris. On y voyait la rive du lac interrompue par l'embouchure d'un fleuve qui ne pouvait être que le Rhône, un village enneigé situé sur une pente qui ne pouvait être que Villeneuve, et une portion des Alpes s'étendant derrière Bouvray et Saint-Ginolph. On eût dit que ces villages venaient de ressusciter à l'instant. Tout était noyé ce matin-là dans une délicieuse atmosphère d'azur, d'outre-mer, d'indigo et d'émeraude. C'était un lieu béni, comme sans doute on n'en pouvait trouver nulle part ailleurs. Les cinq murs, le plancher de chêne, les tapisseries devinrent mon décor personnel, bien qu'en réalité la salle nous fût commune. Mais j'avais l'intention d'en faire mon lieu de travail. Les papiers trouvés dans le secrétaire indiquaient qu'elle avait servi de bureau à un certain R.E. Gault, grand bailli, dont le château devait être la résidence. Pendant le déjeuner, elle proposa que nous restions ici, et je lui répondis que ce n'était pas une mauvaise idée, bien que j'eusse un certain pressentiment. Ensemble, nous fîmes le tour du propriétaire. Cette demeure se révéla plus spacieuse qu'on ne s'y attendait, et je consentis à y demeurer. Chaque aile abritait des appartements aux petites chambres confortables, bizarrement garnies de lourds meubles Henri IV et de lits à colonnes. Chaque appartement avait son entrée séparée, pour ainsi dire secrète, et on y accédait par un escalier en spirale. Il fut décidé qu'elle occuperait celui donnant sur le lac, l'embouchure du Rhône, Bouvray et Villeneuve. Je me réservais l'autre aile, qui avait vu sur l'arrière-pays, le pont-levis, les rochers de la côte et une partie du village de Chillon. Une fois cet arrangement décidé, je pris sa main dans la mienne et je lui dis « Nous voilà donc sous le même toit, pour la première fois. Je ne peux t'expliquer pourquoi, Léda, mais c'est dangereux. Si dangereux que cela peut entraîner la mort de l'un ou de l'autre, terriblement dangereux, ma pauvre enfant. Crois-moi, car je sais ce dont je parle. Mais puisqu'il en est ainsi, ne viens jamais dans la partie que j'occupe, et je n'irai jamais dans la tienne. Nous avons été trop souvent ensemble ces derniers temps. Mais nous menions une vie très active, toujours occupée par quelques projets. Je me rends compte qu'il n'en sera pas de même ici. Il faut donc que nous vivions séparément. Tu ne comprends pas, mais les choses sont ainsi. Tu n'es rien pour moi, et je ne suis rien pour toi. Mais nous vivons sur la même terre, qui n'est plus que néant, heureusement. Tu te procureras toi-même ta nourriture, tes vêtements, tout. Rien de plus facile. Les rives sont couvertes de maisons, de châteaux, de villes. Je ferai la même chose. Tu pourras prendre l'automobile qui est en bas. J'en trouverai une autre. Je vais me procurer dès aujourd'hui deux bateaux et des instruments de pêche. Nous aurons chacun les nôtres. Je marquerai ton embarcation d'une croix à l'avant pour que tu ne puisses pas te servir de la mienne. Tout cela est absolument nécessaire. Cela te dépasse, mais je sais ce que je dis. Ne prends pas de risques en escaladant les montagnes, ni en auto, ni en bateau. Léda, je vis qu'elle faisait la moue et je la quittais en hâte. Je ne voulais pas savoir si elle pleurait ou non. Pendant le voyage dans les Balkans et pendant ma maladie, elle m'était devenue très proche et très chère, mon tendre amour, mon âme chérie. Mais dans le fond de mon cœur, je ne cessais de me répéter. Je veux être un honnête homme, je ne veux pas tricher. Il existe sous le château une sorte de cachot garni de sept piliers. Le huitième est à moitié enfoncé dans le mur et la pierre en a été usée par un ou plusieurs prisonniers qu'on y avait enchaînés. Le nom de Byron est inscrit sur ce pilier, ce qui me fit souvenir qu'un poète de ce nom avait écrit quelque chose sur cette geôle. Effectivement, 2 jours plus tard, je trouvais ce poème dans une bibliothèque attenante au bureau du Grand Bailli, qui contenait beaucoup d'ouvrages anglais. C'est ainsi que je lus le poème intitulé « Le prisonnier de Chillon ». Je le trouvais émouvant, et la description très bonne, sauf que je ne vis pas 7 anneaux de fer, et, à la place de l'auteur, je n'aurais pas parlé de lumière pâle et livide, mais plutôt de ténèbres brunâtres, car le mot « lumière » déconcerte l'imagination dans cet endroit où le plus faible rayon de soleil ne peut jamais entrer. Je fus cependant si frappé par la description des horribles atrocités que l'homme fait subir à l'homme que je décidai de faire lire ce poème à Leda. J'allai directement dans sa chambre, le livre en main, et, comme elle n'était pas là, je furetai parmi ses affaires pour voir à quoi elle passait son temps. Tout était propre et en ordre, sauf dans une pièce où se trouvaient pêle-mêle des brochures intitulées « La mode » et des pièces de vêtements décousus. Elle revint 2 heures après, et me voyant soudain devant elle, elle poussa un « oh » de surprise, et son visage s'illumina. Je la menai dans une grande salle, garnie de râteliers remplis de fusils de toutes sortes, et de vitrines qui renfermaient revolvers, cartouches, épées et baïonnettes. On y trouvait aussi divers périodiques régionaux. De là, nous descendîmes dans le cachot, et je lui montrai la pierre usée, l'anneau de fer et les rainures dans l'épaisseur du mur, puis je lui confiai l'abominable histoire. Pendant ce temps, les vagues du lac se brisaient contre les rochers avec un bruit étrangement lugubre, et son visage devint très triste. « Comme il devait être dur et cruel !» cria-t-elle, le visage rouge d'indignation. « Il l'était en effet, dis-je. Oui, il en était ainsi à l'époque. Et c'était l'époque où les hommes sont devenus cruels parce qu'ils manquaient d'espace, dit-elle. Si ceux qui l'ont libéré étaient si bons quand les autres étaient cruels, que se serait-il passé si tout le monde avait été gentil ? Ils auraient été des anges. » À Chillon, nous occupions nos journées à pêcher et à nous promener dans la région, mais il ne passait pas une semaine sans qu'on me vît à Bouvray, Saint-Ginolphe, Ivoire, Mesret, Nyon, Ouchy, Vevey, Montreux, Genève, ou dans l'un ou l'autre de ces nombreux villages et ces villes plus ou moins importantes qui se dressent sur les rives. Ces jolis endroits ont tous leur charme particulier. La plupart du temps, j'allais à pied, bien que le chemin de fer fût praticable tout au long du lac. Un jour à midi, je marchais dans la grande rue de Vevey, en direction de la route de Cully, quand je reçus un choc terrible. D'une boutique sur ma droite, me parvint un bruit étrange, un signe incontestable de vie, pareil à un cliquetis métallique. Mon cœur bondit dans ma poitrine, le sang se figea dans mes veines, je me dirigeai vers la porte ouverte sur la pointe des pieds et je risquai un œil à l'intérieur. Je la vis, elle, de dos, devant le comptoir d'une bijouterie, la tête penchée sur un plateau de bijoux qu'elle tenait à la main et qu'elle remuait je ne sais dans quel but. Je ne pus m'empêcher de pousser un cri d'étonnement. Ce jour-là, jusqu'au coucher du soleil, nous fûmes bons amis. Je ne pouvais plus la quitter. Nous nous promenâmes à travers champs et bois et le long de la berge dans la direction d'Ouchy. Elle était toute à la joie de vivre, se rouler dans l'herbe, glisser sur les pentes fleuries, marquer le pas avec moi. Elle agissait en superbe souveraine de la terre, ce qu'elle était. Elle courait comme une folle en me demandant de l'attraper, riant, pleine d'abandon, lançant des railleries effrontées, gaie comme une pouliche dans un pâturage de montagne. Elle agitait les boucles de ses cheveux comme une bacchante, et, en traversant Cully, elle but à longs traits plus de vin qu'il n'était à mon avis raisonnable. Toute la journée, je fus en extase. Mes yeux et mon esprit avaient la révélation de la beauté vivante, et une angoisse douce amère m'étreignait. C'en était trop pour moi, je me sentais défaillir. Ô ciel, quelle plume peut décrire ce qui se passe dans les profondeurs de notre âme? Aouchi, d'un coup de coude, je l'écartai de moi, et je partis, la laissant seule. Pendant cette longue nuit, je ne pus échapper à son emprise. Peut-être est-il possible d'échapper aux lois de la gravitation, mais je ne pouvais pas résister à l'attirance qu'elle exerçait sur moi, car toutes les forces de la nature se combinent en elle, et ni le soleil ni la lune ne peuvent lui être comparées. Après l'avoir quittée, j'étais comme un poisson hors de l'eau, comme une bête au fond de l'abîme, car elle est mon élément. Sans elle, je ne peux respirer, j'étouffe. Pendant des heures cette nuit-là, je restai étendu sur la sente boisée qui conduit au cimetière d'Ouchy, tel un homme blessé à mort, mort dans l'herbe. Ce qui rendait les choses plus abominables pour moi, c'est qu'elle avait adopté les vêtements européens en arrivant dans ce pays. Je pense qu'avec son habileté coutumière, elle faisait elle-même ses robes. J'avais remarqué une fois dans sa chambre des gravures de mode en désordre, comme chez les couturiers. Elle avait pu aussi transformer des vêtements trouvés dans les boutiques. Rien dans son habillement européen ne me rappelait les robes modern style que j'avais connues. Je crois qu'elle suivait son propre goût et qu'elle était surtout attirée par le style grec ou le style empire. De toute façon, l'élégance ne lui est pas moins naturelle que le plumage l'est au perroquet. Elle change de robe comme la lune change d'aspect et ne porte jamais deux fois la même. À chaque instant, elle se surpasse en originalité. Je n'aurais jamais pu imaginer quelqu'un dont le goût fût si indépendant, si précis et si prononcé. Elle voyait et discernait ce qui lui seyait. Elle devinait d'instinct, autant que par réflexion, ce qu'il y avait de plus exquis en matière de toilette, et chaque fois que je la rencontrais, j'avais l'impression d'une œuvre d'art parfaitement nouvelle et toujours fascinante. Les œuvres d'art ne sont-elles pas destinées à nous convaincre, au moment où on les contemple, que rien d'autre ne peut exister d'aussi parfait? De temps à autre, je la voyais de ma fenêtre, se promener dans le bois, par-delà le pont-levis, fraîche et blanche dans l'ombre, probablement avec sa Bible ou son traité de chimie, faisant onduler sa traîne comme une dame de la cour. Elle semblait avoir grandi. Je crois que cette nouvelle manière de s'habiller provoqua entre nous une séparation plus complète. C'est ainsi qu'après le jour de notre promenade entre Vevey et Ouchy, je pris grand soin de l'éviter. Plus je remarquais qu'elle se couvrait de bijoux, qu'elle se maquillait, qu'elle se parfumait avec toutes sortes de sachets odorants, plus je me détournais d'elle. J'avais moi-même repris mes vêtements européens, et je ne ressemblais plus du tout à ce soi-disant monarque corpulent qui se pavanait et se lamentait 4 ans auparavant dans le palais d'Imbros. Mes façons d'être et de penser étaient redevenues ce qu'il est convenu d'appeler modernes. Mon sens des responsabilités était de plus en plus contraignant et semblait augmenter de jour en jour. Une voix intérieure ne cessait de me faire des remontrances, ne me laissait pas un instant en paix. La malédiction de millions d'êtres humains jamais venus au monde m'accablait comme une menace. Je m'accablais moi-même de mon propre mépris, me traitant de bagnard, et je l'appelais coccinelle. Quel genre d'homme étais-je pour oser une si grande chose? Et elle, qui était-elle donc pour occuper la place d'une mère chez son hôte? Un papillon avec une cervelle de femme. Fréquemment désormais, dans mes heures les plus sombres, je méditais soit ma mort, soit la sienne. Mais le papillon ne me laissait pas oublier qu'il avait une cervelle. Au sud-ouest de Villeneuve, entre la forêt et le fleuve, il y a un champ de gentiane. Au cours du troisième mois, revenant un jour au château après avoir fait un tour à Saint-Ginolphe, j'aperçus, au tournant de la montagne, un curieux objet qui flottait dans l'air au-dessus du champ. Je n'ai jamais été si surpris ni si étonné, car je n'avais pas la moindre idée de la manière dont ce grand papillon pouvait ainsi planer. Mais je ne fus pas long à comprendre qu'elle avait réinventé le cerf-volant, et je la vis qui tenait la corde au milieu du champ. Son invention ressemblait à ce type de cerf-volant à queue d'hirondelle, comme on disait dans le temps. Je la voyais surtout sur le lac, car c'est là que nous passions la plupart de notre temps, et nous ne pouvions pas toujours éviter les approches coupables et les rencontres, elle dans son bateau, moi dans le mien. C'étaient deux bateaux de plaisance de Montreux, bordés à clins, et que j'avais soigneusement remis en état et repeints. Le mien était gréé avec un foc, une grande voile et une brigantine. Le sien, plus petit, n'avait qu'un seul mât, avec une voile au tiers, facile à manœuvrer. Il m'arrivait couramment d'aller à la voile jusqu'à Genève, et de revenir, après une croisière de 7 jours, l'âme en paix, à force de contempler le lac aux humeurs changeantes, souriant et triste, volage et réfléchi, douloureux, désespéré, tragique, à midi, au coucher du soleil, à minuit. C'est un panorama qui se transforme à chaque moment. Parfois, l'envie me prenait d'escalader les sommets alpestres où vivent les chamois. Une fois même, j'y ai dormi. Je me souviens d'avoir été malade d'angoisse pendant 2 semaines. Elle avait disparu avec son embarcation. J'étais resté au château et elle ne revenait pas. Elle était dehors quand une tempête soudaine transforma le lac en un océan déchaîné et elle ne revenait pas. Rendu à moitié fou par ces jours d'attente vaines qui s'écoulaient les uns après les autres, je partis à sa recherche, éperdu. C'était bien la plus désespérée de toutes les quêtes, car la terre est vaste et je ne la trouvais nulle part. Je revins au bout de 3 jours, quand je me rendis compte que j'étais fou de poursuivre de vaines recherches. En approchant du château, je la vis qui agitait son mouchoir au bord de l'îlot, car elle avait deviné que j'étais parti à sa rencontre et me guettait. Quand je lui pris la main, elle ne trouva rien de mieux à me dire que les paroles de la Bible, « Ô homme de peu de foi !» Et comme elle avait des aventures à me raconter, toujours en transformant les « R » en « L » mouillés, je passais toute la journée avec elle. Une fois par mois, peut-être, elle venait frapper à la porte de mon appartement, que je tenais fermée quand j'étais à la maison, pour m'offrir une truite saumonée ou un ombre admirablement présenté, que je n'avais pas le cœur de lui refuser. Elle préparait ses poissons d'une manière exquise et les épiçait juste comme il convenait. Elle s'appliquait à la cuisine avec autant de goût qu'elle en mettait pour s'habiller. Et elle avait tant de chance à la pêche qu'elle attrapait toujours les meilleures pièces. Il faut dire que ce lac, avec ses alvinières et ses échelles à poissons, n'en est pas avare. Il regorge de truites et de saumons. Dernièrement, j'en ai attrapé un à l'épuisette qui pesait bien 40 livres. Comme le bord de l'île est à pic et qu'il y a 200 mètres de fond à cet endroit, nous abandonnâmes vite la pêche au fond pour d'autres méthodes, la pêche entre 2 eaux avec 3 hameçons en triangle, la pêche au lancer pour le brocheton et la truite, à la traîne pour le saumon, à l'appât vivant avec flotteur pour le brochet, à la trembleuse et à la mouche artificielle. Je ne sais à quelle pêche elle se montra la plus habile, mais toutes lui devinrent bientôt aussi naturelles que n'importe quelle activité apprise dès le berceau. Le 21 octobre, j'atteignis ma 46e année en excellente santé. Malheureusement, ce jour-là devait se terminer pour moi d'une manière sanglante et tragique. Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais mentionné cette date anniversaire, longtemps auparavant, à Venise, je crois, sans imaginer qu'elle en tiendrait compte. Donc, le 21 octobre, descendant mon escalier privé en costume de flanelle, mon attirail de pêche à la main, je la rencontrai au bas des marches, bien qu'elle n'eût aucun droit d'y être. Avec son roucoulement habituel, Bien qu'un peu pâle et le regard coupable, elle m'offrit un gros bouquet de fleurs. Cela me rendit sur le champ très nerveux. Elle portait une robe de mousseline garnie de dentelle crème avec des manches ballons. Un diamant ornait son décolleté. Sa peau d'ivoire brunie semblait d'autant plus foncée qu'elle s'était poudré le visage avec une poudre blanche aux reflets bleutés. Ses taches de rousseur n'avaient d'ailleurs pas complètement disparu. Elle était chaussée de pantoufles de soie rose et ne portait pas de bas. Ses cheveux étaient pris dans un anneau d'or et elle était délicieusement parfumée. Je restai sans voix. Ce fut elle qui rompit un silence pénible en disant d'une voix défaillante « C'est ton anniversaire. » « Mon, peut-être, bégayai-je. » Et je vis que la joie qui l'illuminait s'évanouissait devant mon attitude incohérente. « Est-ce que j'ai encore mal fait ? » demanda-t-elle. Et elle baissa la tête. Il y eut un nouveau silence. « Non, non, oh non !» dis-je précipitamment. « Tu n'as rien fait de mal. Seulement, je ne pouvais pas supposer que tu compterais les jours. Tu es attentive. Peut-être, mais... » Dis à Leda. « Peut-être, j'allais dire, veux-tu venir à la pêche avec moi ?»« Oh oui, avec joie !» dit-elle doucement. J'étais furieux de ma lâcheté, de mon incroyable faiblesse, mais je n'y pouvais rien. Je pris les fleurs et nous descendîmes prendre mon bateau. Je rejetai quelques poissons qui restaient dans le vivier, mis de l'ordre dans les agrès, arrangeai le coussin sur le banc arrière et hissai les voiles. Elle prit la barre et nous partîmes. Je m'installai à l'avant pour être le plus loin d'elle possible, humant avec délice les bouffées de son parfum composé d'ambre gris et de frangipane ou de je ne sais quel mélange. La matinée était chaude, une légère brise agitait l'eau moirée, pareille à de l'eau sale mêlée à l'eau de lessive. Nous avancions doucement. Un bon moment s'écoula avant que je me rapproche d'elle pour tendre l'espar sur lequel je fixais la ligne flottante, car j'avais l'intention de prendre du saumon ou de la truite à la traîne. Nous n'échangeâmes pas un mot pendant tout ce temps-là, mais quand je fus près d'elle, je lui demandai « Qui t'a donc dit qu'on offrait des fleurs pour les anniversaires et que les anniversaires avaient une importance quelconque ?» À quoi elle répondit « Je pense qu'il n'y a rien d'aussi important que la naissance » et les parfums étaient considérés comme favorables puisque les hommes sages ont apporté des épices au petit Jésus. Cette naïveté me fit reprendre immédiatement mes esprits, car le rire est salvateur. J'éclatai de rire en disant « Tu lis trop la Bible, tu devrais lire des livres modernes. » « Il y en a beaucoup que je ne peux pas lire, » dit-elle. « Les gens étaient trop corrompus, ça me fait frissonner. » « Eh bien, tu vois, tu es d'accord avec moi. »« Oui et non, » dit-elle. « Ils ont été corrompus, c'est tout. » Ils n'avaient plus l'esprit clair et ne pouvaient pas voir la vérité. J'imagine que ces facultés qui les ont aidés dans leur lutte pour la richesse aux dépens des autres ont pris trop d'importance et que leurs autres facultés ont diminué, comme une personne qui voit double avec un œil et qui est aveugle de l'autre côté. « Ils ne voulaient pas voir de l'autre côté, » dis-je. Il y avait parmi eux des gens qui voyaient très clair et qui montraient comment, en changeant quelques-unes de leurs anciennes lois, ils pouvaient s'améliorer, mais leurs oreilles étaient sourdes ou bien ils se moquaient. Ils étaient devenus plus ou moins indifférents à leur misère, surtout les riches. Ils étaient aussi misérables que ce prisonnier de Chillon du poème de Byron qui déclara à ceux qui vinrent le libérer « À la fin, il m'était indifférent » d'être enchaîné ou de perdre mes fers. J'avais appris à aimer le désespoir. « Mais c'est terrible, » dit-elle en se couvrant le visage. « Et ça semble vrai. Ils ont appris à aimer le désespoir et à en être satisfaits. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils étaient presque tous bons et intelligents, sauf du côté de l'œil aveugle qui les empêchait de voir les étoiles, de la même manière qu'on se sert d'une seule main par habitude. » Ce que je lis sur ces gens me semble étrange, pas naturel. Leur mobile semble si servile, si corrompu, leur vie si dépourvue de sens. Vraiment, leur tête était malade, leur âme défaillante. C'est tout à fait exact. Remarque que cela n'est pas nouveau. Au début de la Bible, on peut lire que Dieu vit qu'au fond du cœur, l'homme était le mal. « Oh, mais tout cela n'est pas vrai !» s'écria-t-elle avec une moue. « Ce n'est pas vrai des Polynésiens qui partageaient tout et qui vivaient heureux sans connaître le péché dans ce paradis jusqu'à ce que des esclaves blancs, avilis par des siècles d'esclavage, viennent avec des sermons, soi-disant pour leur bien et pour les voler. Ce n'est pas vrai de toi et de moi. Il n'y a aucun mal dans nos âmes. » « C'est toi qui le dis, » répondis-je. « Quant à mon âme, tu ne la connais pas, Léda. » Ce matin-là, les cernes sous ses yeux, comme cela lui arrivait souvent, lui donnaient un air pensif et fatigué, comme une courtisane après une orgie. Elle me regarda avec douceur et me répondit « Oui, je connais mon âme, et elle n'est pas mauvaise du tout, et je connais la tienne aussi. »« Tu connais la mienne, » m'esclaffai-je. « Tout à fait bien, » dit-elle. Devant cette froide assurance, je demeurai si déconcerté que je ne répondis mot. J'allai vers elle et lui tendis les hameçons à pâté, l'émerillon et la ligne. Elle les lança dans l'eau et je retournai à l'avant. « Voilà qui est nouveau, » dis-je alors. « Ainsi tu connais mon âme. Eh bien, dis-moi donc ce qu'il y a en elle. » Elle garda un moment le silence, semblant se concentrer sur sa ligne. Puis, la tête penchée, elle me répondit d'une voix presque imperceptible. « Je vais te le dire. Il y a en toi une révolte que tu crois bonne et qui n'est pas bonne. Si un cours d'eau se contente de couler sans penser ni à escalader ni à inonder ses rives, s'il suit son chemin pour aller où celui qui le conduit doit le conduire, il atteindra la mer et se mélangera à la plénitude. « Le conseil n'est pas nouveau, » dis-je. « C'est ce que les philosophes appellent accepter le destin, suivre la nature. Mais le destin et la nature, je peux te le dire, ont souvent mené l'humanité vers le mal. » « Cela semble ainsi, » répondit-elle, « pour un moment. Comme lorsqu'un fleuve s'égare un instant au nord et que la mer est au sud, mais de toute façon, il doit retrouver la mer et il fera un nouveau détour. Le destin ne doit pas, ne peut pas être jugé, car il n'a pas de fin, et notre chemin doit passer là où c'est indiqué. Il est évident qu'après de nombreux détours, il conduit le monde vers Dieu, qui est notre demeure. « Dieu est notre demeure, vraiment !» criai-je, très énervé. « Jeune fille, ce que tu dis est très spécieux. Et depuis quand as-tu ces idées en tête? Tu parles de notre race, mais il n'y a que nous deux sur la terre. C'est à moi que tu t'adresses, Léda? Est-ce que je n'obéis pas au destin? Toi, soupira-t-elle en baissant la tête. Ah, pauvre de moi! Que devrais-je donc faire pour le suivre? Demandai-je avec une curiosité folle. Son visage devint pâle d'émotion et elle me dit « Tu dois venir ici et t'asseoir à côté de moi. Tu ne dois pas rester là-bas. Tu dois toujours être à côté de moi. » Grand Dieu, je me sentis devenir tout rouge. « Oh, je ne peux pas te dire !» criai-je. « Tu dis les choses les plus désastreuses. Tu n'as pas le sens des responsabilités. Jamais, jamais !» Elle se couvrit le visage de la main gauche en continuant à gouverner de la main droite, et me répondit d'un ton mordant avec une nuance agressive. « Je peux te faire venir tout de suite si cela me plaît. Mais je ne veux pas, j'attends que Dieu parle. »« Me faire venir » criai-je. « Léda, comment cela ?»« Je peux pleurer devant toi, comme je pleure souvent, souvent, en secret, pour mes enfants. » « Tu dis ? En voilà des nouvelles ! « Des enfants ?»« Oui, je pleure. Est-ce que le fardeau du monde n'est pas lourd à porter pour moi aussi ? Et le travail que j'ai à faire n'est-il pas très grand ? et je pleure en secret en pensant à cela. Je vis qu'elle avançait sa pauvre petite lèvre inférieure qui frémissait, ce qui présageait un flot de larmes. Je ne pouvais retenir mon émotion et j'allais me précipiter vers elle pour la prendre dans mes bras. Mais à mi-chemin, je fus sauvé. Un murmure intérieur, vif comme un éclair, m'arrêta. « Il n'y a pas moyen de t'échapper, ni en avant ni en arrière, mais de côté il y a une chance. » Et avant de savoir ce que j'étais en train de faire, je plongeai dans l'eau et je partis à la nage. Je gagnai la plus petite des îles, à 200 mètres de là. Je m'y reposai quelques minutes et retournai au château sans regarder derrière moi.